Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui qui vous apporte les dernières nouvelles à travers le monde. Je suis Nanit Talani, voici les titres de ce matin. Génocide des Tutsis, confirmation en appel de la réclusion à perpétuité pour Philippe Magnier. Un nouveau médicament contre le VIH offre de l'espoir à des millions de personnes. La maladie mystérieuse en RDC identifiée comme un paludisme sévère. Nous y reviendrons dans nos dossiers du jour avec une interview exclusive du docteur Aaron Haruna à Kinshasa.
Mais le premier chiffre qu'on avait avancé, c'était 140 décès. Et que d'après les statistiques, la tranche d'âge plus touchée, c'était les enfants de moins de 12 ans.
Également, des drones mystérieux survolent l'est des États-Unis. Les autorités cherchent des réponses. Les Mexicains sont encouragés à déposer leurs armes dans des églises. Sport, Vinicius Junior, sacré meilleur joueur FIFA de l'année. Sans oublier l'actualité économique, voici le journal. La Cour d'assises de Paris a confirmé en appel la peine de réclusion à perpétuité pour Philippe Magnier, un ancien gendarme rwandais impliqué dans le génocide des Tutsis en 1994. Magnier, naturalisé français, avait été accusé de génocide et de crimes contre l'humanité pour son rôle dans des massacres dans la préfecture de Boutari. Il a supervisé des barrages routiers pour exterminer des civils tutsis et participer à plusieurs massacres, tuant des centaines de personnes. Malgré ces dénégations, la Cour a souligné son rôle déterminant dans l'ampleur des crimes. La défense a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. En RDC, le ministère de la Santé a annoncé hier qu'une maladie jusque-là non identifiée est une forme grave de paludisme. La maladie a déjà fait 143 morts dans la province de Kwango, dans le sud-ouest du pays. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Le mystère a enfin été résolu. Il s'agit d'un cas de paludisme grave sous la forme d'une maladie respiratoire, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué, ajoutant que la malnutrition dans la région avait affaibli la population locale, les rendant plus vulnérables aux maladies. Le communiqué a également précisé que 592 cas avaient été signalés depuis le mois d'octobre avec un taux de mortalité de 6,2%. Les symptômes de la maladie sont fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal et douleurs corporelles. Le ministre provincial de la Santé, Apollinaire Yumba, a fait savoir que des médicaments antipaludiques fournis par l'Organisation mondiale de la Santé étaient en cours de distribution dans l'hôpital principal et les centres de santé de la zone de santé de Panzi, épicentre de la maladie. Un porte-parole de l'OMS a indiqué que davantage de kits de santé pour les cas modérés et critiques devraient arriver ce mercredi.
Plusieurs organismes de lutte contre le sida ont uni leurs forces pour fournir à 2 millions de personnes du lenacapavir. Il s'agit d'un nouveau médicament qui promet une efficacité sans précédent dans la prévention contre le sida. Mouamadou Oumfa nous en dit plus.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le PEPFAR, plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ont uni leurs forces à celles de la Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance et de la Fondation Bill et Melinda Gates pour faciliter l'accès au lenacapavir. Ce médicament injectable, fabriqué par le laboratoire américain Gilead, change la donne de par son efficacité, mais aussi parce que contrairement aux prophylaxies existantes qui supposent une prise quotidienne, il permet de ne prendre que 2 doses semestrielles tous les ans. Mais le prix de $40,000 pour un traitement a été un obstacle avant que Gilead ne cède sous la très forte pression des organismes spécialisés dans la lutte contre le sida. S'il est déployé à grande échelle parallèlement à d'autres outils de prévention du VIH, le lenacapavir a le potentiel d'accélérer la fin de l'épidémie du sida. C'est un objectif que s'est fixé la communauté internationale d'ici 2030, souligne le Fonds mondial dans un communiqué. Gilead a annoncé en octobre avoir signé des accords de licence volontaire sans redevance avec 6 fabricants de médicaments génériques. Cela doit permettre de fournir des versions à bas prix du lenacapavir pour la prévention du VIH dans 120 pays à faible revenu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont affirmé hier mardi ne pas être impliqués dans l'attaque qui a tué un haut responsable militaire russe à Moscou, une opération revendiquée par l'Ukraine. Néanmoins, Washington dénonce l'implication de ce général dans des atrocités. Le point avec Eric Manirakiza.
Je peux vous dire que les États-Unis n'en ont pas été informés à l'avance et n'étaient pas impliqués, a déclaré le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Le général Kirillov était celui qui parlait lors de ses briefings des laboratoires d'armes biologiques américains en Ukraine, dont Moscou accuse Washington, rappelle le journal Commerçant sur son site. C'était un général qui était impliqué dans un certain nombre d'atrocités. Il était impliqué dans l'utilisation d'armes chimiques contre l'armée ukrainienne, a assuré le porte-parole du département d'État. Les services de sécurité ukrainiens, SPU, avaient déjà accusé lundi le général de crimes de guerre dans un communiqué et d'être responsable d'usage massif des armes chimiques contre les forces ukrainiennes. Les autorités russes ont rejeté ces accusations à plusieurs reprises, les qualifiant d'absurdes. Le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, et son assistant ont été tués dans l'explosion d'un engin dans le sud-est de Moscou, avait annoncé le comité d'enquête russe qui avait ouvert une enquête pour assassinat, attentat et trafic d'armes. Nous n'allons pas pleurer la mort d'un individu qui a participé à une invasion illégale et imposé la souffrance et la mort au peuple ukrainien, a déclaré de son côté un porte-parole du gouvernement britannique.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclaré hier que les discussions menées au Qatar en vue d'un accord de trêve et de libération des otages à Gaza étaient sérieuses et positives. Selon une source proche des pourparlers, une délégation israélienne est arrivée lundi à Doha pour rencontrer des médiateurs. Information que les autorités israéliennes n'ont pas confirmée. Les précisions de John Lindon.
Dans un communiqué, le Hamas affirme qu'à la lumière des discussions sérieuses et positives tenues mardi à Doha sous les auspices du Qatar et de l'Égypte, il est possible de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers si l'occupation cesse d'imposer de nouvelles conditions. Ces discussions font suite à une visite à Doha le 11 décembre du chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, David Barnea, a indiqué lundi une source proche des négociations, mais rien n'indique qu'il participe au pourparlers en cours. Les négociateurs israéliens n'ont jamais été aussi proches d'un accord en vue de la libération d'otages dans les territoires palestiniens depuis la trêve de novembre 2023, a déclaré lundi le ministre de la Défense israélien, Israël Katz. En novembre 2023, une trêve d'une semaine, la seule intervenue jusqu'ici, avait permis la libération de 105 otages et celle de 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Tous les efforts de médiation menés par l'Égypte, les États-Unis et le Qatar depuis lors pour tenter d'obtenir une nouvelle trêve ont échoué.
Les élus américains au Congrès ont trouvé hier un accord budgétaire pour financer l'État fédéral jusqu'à mi-mars, évitant ainsi un shutdown, une paralysie des services publics juste avant les fêtes de fin d'année. Le texte doit être adopté par la Chambre des représentants avant d'être voté au Sénat, puis promulgué par le président Biden. Si aucun accord n'est trouvé d'ici vendredi soir, des centaines de milliers de fonctionnaires seraient mis en chômage technique et des services sociaux suspendus. Luigi Mangione, le tueur présumé du directeur général de United Healthcare, Brian Thompson, a été inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes d'actes de terrorisme à New York. L'assassinat, survenu le 4 décembre, visait à provoquer la terreur selon le procureur de Manhattan. Luigi Mangione, 26 ans, ancien étudiant brillant, a été capturé dans une ville de Pennsylvanie 5 jours après le meurtre. Il encourt la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête a révélé un texte manuscrit ciblant le secteur de l'assurance santé que Luigi Mangione détestait. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voici à présent les points essentiels à retenir des dernières tendances économiques sur le continent africain et ailleurs avec Georges Léonard Sagno.
Le Kenya a prolongé un accord de fourniture de pétrole avec 3 entreprises du Golfe, ce qui a permis d'alléger la pression sur sa monnaie, le shilling. Cet accord est assorti de conditions de crédit de 180 jours, ce qui permet au pays d'accumuler des dollars pour l'achat en temps utile, plutôt que d'avoir besoin d'environ 500 millions de dollars chaque mois pour payer les importations. La Zambie sera à nouveau éligible à des financements étrangers dans les mois à venir. Les négociations sur la restructuration de sa dette entrant dans leur phase finale. La Zambie a fait défaut sur sa dette en 2020 dans un contexte de pandémie de COVID-19. Lusaka a conclu en juin 2023 un accord de principe avec ses créanciers publics étrangers sur la restructuration de 6 milliards de dollars de dettes extérieures. La Banque centrale américaine Fed a entamé mardi sa réunion au cours de laquelle ses responsables devraient abaisser de nouveau les taux malgré une reprise de l'inflation ces 2 derniers mois et une activité économique toujours dynamique. La Fed publiera sa décision ce mercredi. La Réserve fédérale a commencé en septembre à abaisser ses taux qu'elle maintenait depuis juillet 2023 à leur plus haut niveau en plus de 20 ans afin de faire baisser l'inflation.
Retrouvons maintenant Yacouba Ouédraogo pour notre segment sportif qui revient notamment sur la cérémonie FIFA The Best à Doha au Qatar. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Vinicius Junior, sacré meilleur joueur FIFA de l'année.
Oui, le Brésilien du Real Madrid a été désigné meilleur joueur FIFA de 2024 lors de la cérémonie The Best organisée à Doha au Qatar. Vinicius Junior venge donc l'affront ressenti par le Real Madrid qui avait annulé sa venue à la cérémonie du Ballon d'Or fin octobre à Paris pour protester contre la victoire du milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri. Le club merengue a aussi vu son entraîneur Carlo Ancelotti emporter le trophée du meilleur entraîneur de l'année. L'Italien avait déjà été désigné au Ballon d'Or. Chez les dames, la Barcelonaise Aitana Bonmati a été désignée meilleure joueuse FIFA pour la 2e année consécutive, comme au Ballon d'Or. Emma Hayes, sur le banc de Chelsea, a remporté le trophée de meilleur entraîneur 2024, aux côtés du prix Puskas de plus beau but de l'année, décerné au mancunien Alejandro Garnacho. La FIFA a créé cette année un prix Marta dédié au plus beau but féminin de l'année, attribué à Marta, la joueuse brésilienne à l'immense carrière.
Justement, parlons de la Coupe intercontinentale, le Real Madrid brigue un second titre cette saison.
Le Real Madrid aborde la finale de la Coupe intercontinentale aujourd'hui à Doha contre le club mexicain du Pachuca, qui a sorti à la Ligue d'Égypte de la compétition avec Kylian Mbappé incertain pour cause de blessure. Le club madrilène part tout de même favori avec ses autres stars Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. Cette compétition annuelle prolonge l'ancien mondial des clubs qui sera désormais organisé tous les 4 ans et dont la première édition nouvelle formule aura lieu l'été prochain aux États-Unis. Le club vainqueur de la Ligue des Champions sera désormais dispensé de demi-finale et n'aura qu'un match à disputer la finale pour remporter ce trophée.
Pour terminer, Yacouba, Ronaldo vise la présidence de la Fédération brésilienne de football.
L'ancien attaquant brésilien a annoncé son intention d'être candidat à la présidence de la Confédération brésilienne de football, promettant le changement pour résorber une crise profonde chez les quintuples champions du monde. J'ai des centaines de motivations, mais je crois que la plus grande d'entre elles est de faire en sorte que le football brésilien soit à nouveau respecté au niveau international, a déclaré Ronaldo dans un entretien sur le site Globo Esporte. Pour déposer sa candidature, le double champion du monde 1994 et 2002 et double ballon d'or 97 et 2002 doit bénéficier du soutien des clubs et des fédérations régionales. Et pour ce faire, il a promis de voyager dans tout le Brésil pour partager ses plans pour un football brésilien qui court après son 6e titre mondial depuis plus de 22 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, de nouveau avec vous. Bienvenue dans nos dossiers du jour qui vous propose une interview exclusive du docteur Aaron Haruna à Kinshasa sur une mystérieuse maladie en RDC. La lutte des journalistes de Goma contre la désinformation et la situation alarmante des enfants exploités dans les mines de lithium au Nigeria. Nous nous intéressons également aux mystérieux drones qui survolent l'est des États-Unis. Une maladie non décelée jusque-là fait des ravages à Ponzi, une région de la province du Kwango, dans l'ouest de la RDC. Au moins 140 décès ont été enregistrés la semaine dernière dans cette zone située à 700 km à l'est de Kinshasa. Hier mardi, le ministère de la Santé a annoncé qu'il s'agit en fait d'une forme grave de paludisme. Eddy Isango a joint à Kinshasa le directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé, le docteur Aaron Haruna.
On a dépêché une équipe et qu'il y a un petit souci de communication entre Panzi et avec Kinshasa. Comme je le disais, c'est un coin un peu isolé. Il y a le problème de communication. Mais le premier chiffre qu'on avait avancé, c'était 140 décès. Et que d'après les statistiques, la tranche d'âge le plus touché, c'était les enfants de moins de 12 ans. Et qu'ils présentaient des anémies, des signes typiques au paludisme. C'est un coin où il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de malnutrition, de prise en charge des cas. Du fait qu'il n'y a pas une structure qui peut fournir du sang de bonne qualité. Voilà.
On parle d'une maladie mystérieuse. Est-ce que les échantillons ont été prélevés, des examens ont été faits? Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait?
En fait, d'après l'OMS, parce que c'est l'OMS qui était CPA avec ses amis, on a constaté que beaucoup de cas, 10 échantillons sur 12, c'était des cas de paludisme. Mais je pense qu'il y a une équipe qui continue à faire une investigation, comme je vous disais. Et pour nous, d'abord, ça doit être paludisme et associé à d'autres facteurs, malnutrition et puis des tas d'autres, comme ce sont les enfants de moins de 10 ans, il y a des problèmes de diarrhée, ainsi de suite. Mais pour nous, je pense que le problème crucial, c'est d'abord le paludisme, qui est une forme épidémique, qui se met dans un terreau où il y a la malnutrition, dans un terreau où il y a carence de médicaments pour la prise en charge.
À part la malaria qui est une de possibilités, est-ce qu'on peut penser que c'est une autre maladie contagieuse qui se transmet de l'homme à l'homme, parce que les signes qu'on présentait ressemblaient à cela?
Oui, je pense que c'est pourquoi il faut encore dépêcher des spécialistes. Il faut qu'il y ait des virologues, il faut qu'il y ait des parasitologues pour prélever aussi des échantillons à un niveau supérieur. Mais comme déjà, on a présenté le problème de l'anémie, et il peut y avoir d'autres problèmes, l'association d'état à autre, il y a, parce que chaque année, il y a des épidémies aussi de fièvre typhoïde, et que la fièvre typhoïde touche beaucoup les enfants de moins de 5 ans. Fièvre typhoïde, paludisme, c'est presque le même tableau similaire. Mais maintenant, c'est question de poser aux gens qui sont sur terre, est-ce qu'en plus de cela, il n'y a pas de cas de perforation typhique, c'est-à-dire les cas de péritonite, ou bien d'autres formes hémorragiques pour essayer d'aider à l'association petite paludisme.
C'est un coin reculé, difficile d'accès, mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Parce que ça fait déjà quelques mois qu'on a constaté cela.
Oui, je pense que la province s'est mobilisée. Il y a déjà qu'on a envoyé sur terrain avec un peu de médicaments. Parce qu'une maladie ne peut pas résister une semaine, deux semaines, une maladie mystérieuse. Donc, il faut envoyer les équipes des laboratoires, il faut envoyer les vrais épidémiologistes pour faire l'investigation approfondie pour nous dire effectivement il s'agit de quoi. Bon, bien que l'OMS, le premier chantier qu'on a prélevé, on a dit que c'est le paludisme. Dans ce milieu où il y a une prévalence de malnutrition très élevée.
Il a toujours été rapporté que la RDC a une chaîne qui permet de diagnostiquer assez rapidement quand il s'agit d'épidémie. Cette fois-ci, ça n'a pas marché ou quoi?
Il y a des limites. Hein. Vous vous souvenez, la fois passée, à Banal, il y a pour confirmer les cas de méningite, on était obligé d'attendre un mois, envoyer l'échantillon à l'Institut Pasteur de France. Donc, nous avons quelques échantillons, comme ces derniers temps, nous avons connu une épidémie de fièvre hémorragique. Là, nous sommes bien avancés.
Docteur Aaron Haruna, directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Le Nigeria est confronté à une montée de l'exploitation minière illégale du lithium. Des propriétaires de mines exploitent des enfants issus de familles pauvres à la recherche d'emploi. Ces enfants sont conscients des dangers, mais n'ont d'autre choix que de risquer leur vie pour subvenir à leurs besoins. Dineniwa pour les détails.
L'exploitation du lithium à Pasali dans l'état de Nassarawa au Nigeria depuis une dizaine d'années a transformé une paisible communauté isolée en un site d'activité frénétique de mine artisanale illégale. Les méthodes d'extraction sont aussi primitives que dangereuses. Abdoulaye Sadiou est un mineur de lithium.
Je suis parfaitement conscient que ce que je fais est illégal, mais je le fais pour subvenir à mes besoins et nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement nous aide. Nous ne savons pas quand le gouvernement viendra nous aider et ce, s'il finit par venir. Nous savons aussi que le gouvernement peut venir nous arrêter un jour, mais nous ne pouvons pas nous croiser les bras et attendre, car au lieu de rester les bras croisés ou au pire d'aller voler, il vaut mieux que nous nous lancions dans l'exploitation minière.
La demande croissante de lithium qui alimente les stocks des entreprises chinoises pour son utilisation dans les batteries pour les véhicules électriques et le stockage de l'énergie a créé l'exploitation des plus pauvres et des plus vulnérables, notamment les enfants. Aliou Ibrahim est marchand de lithium.
Je ne peux pas arrêter les enfants parce que dans tout l'état de Nassarawa, si vous allez sur tous les sites d'extraction de lithium, tout le travail effectué sur les sites d'extraction est illégal. Il ne s'agit pas du travail d'une entreprise. Si les entreprises viennent et réalisent qu'il y a du lithium sur le site, elles n'autoriseront pas les enfants à y travailler. Elles clôtureront toute la zone et veilleront à ce que personne n'y entre, en particulier les enfants qui sont des mendiants et qui, s'ils ne travaillent pas, n'ont pas les moyens de nourrir et de prendre soin de leur famille.
Les mineurs manient des haches pour tailler dans les rochers, descendant plusieurs mètres dans des puits sombres. Une équipe de 6 enfants peut trier et en sacher jusqu'à 10 sacs de 25 kilos par jour. Aliou Ibrahim, marchand de lithium.
Nous ne pouvons pas empêcher les enfants d'essayer de gagner leur salaire journalier parce que nous sommes majoritairement pauvres, que nous n'avons rien et que nous devons travailler pour pouvoir manger.
Une fois triés, les minéraux sont mis en sac et commencent leur voyage depuis Pasali jusqu'à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Aujourd'hui, des dizaines de mines sont dans la région, toutes sans licence et probablement inconnues des autorités.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Dans la ville de Goma, en RDC, un groupe de journalistes congolais lutte contre un flot de fausses informations qui peuvent avoir des conséquences tragiques. Le reportage de Zanem Netizaidi, relaté par Jean-Roger Bion.
Ces journalistes travaillant à Goma luttent contre un flot de fausses informations sur la guerre et les maladies. Dans une région en proie à des conflits et à des problèmes de santé, les vérificateurs de faits de la publication et les AFACT luttent contre la désinformation, le mythe selon lequel le Mpox n'existe pas et n'est qu'une simple gale. Selon Aline Catalico, leur travail est essentiel à la santé publique et à l'instauration de la confiance.
Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent sur l'impox, quelqu'un croit par exemple que le vaccin contre l'impox serait là juste pour exterminer le peuple congolais. Et donc, on voit déjà les dangers de ces rumeurs, donc les dangers qui peuvent nuire à la communauté et les dangers qui peuvent laisser à ce que la maladie en ait la question ne soit pas éradiquée.
Depuis 2021, les 25 journalistes de l'ESAFACT, dont Joël Alimassi Kitambala, sensibilise au danger de la désinformation.
Nous mettons des mots-clés à chaque fois qu'il y a une publication qui parle qui mentionne ces mots-clés-là. Nous avons des notifications sur toutes les publications concernant ces mots-clés. Et nous partageons ces publications avec la rédaction, donc l'équipe des éditeurs. L'équipe des éditeurs va juger si la publication, du moins l'information, mérite d'être vérifiée.
Les articles de l'ESAFACT sont publiés sur son site internet, partagé sur les réseaux sociaux et diffusé via les stations de radio locales pour les personnes accès à Internet. Une grande partie de la désinformation concerne des conspirations médicales similaires à celles concernant le Mpox. La journaliste Jolene Kazimoto a fait état de désinformation sur le COVID-19 dans ce podcast.
À Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience quasi généralisée d'une catégorie de la population à s'inscrire dans la lutte contre le Covid-19. Car beaucoup sont ceux qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Les plus dubitatifs s'y trouvent dans le périphérique.
D'après le rédacteur en chef Daniel Makeke, ses efforts sont importants pour lutter contre la désinformation.
Nous sommes en collaboration avec certaines radios communautaires parce que nous faisons aussi une production de podcasts. La radio fait le relais de ces podcasts qui sensibilisent cette population-là sur la maladie, l'épidémie et comment par exemple se faire traiter et quelle est la vérité derrière le traitement par exemple du Mpox ou l'origine du Mpox.
Makeke affirme que les efforts du projet ESAFACT contribuent à prévenir la propagation de fausses nouvelles qui peuvent avoir des conséquences néfastes.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Que se passe-t-il dans le ciel de l'Est des États-Unis? Ces dernières semaines, d'innombrables drones ont été repérés et tout le monde, des habitants des régions où ces appareils sont aperçus, au président élu, se posent des questions. Reportage d'Anita Powell avec le récit de Michel Joseph.
Airlines don't just hang out. Those aren't helicopters.
Pourquoi un grand nombre de drones sont-ils soudainement apparus dans le ciel du New Jersey? Qui les a envoyés et pourquoi? Ces questions se posent à travers toute l'Amérique et dans le monde entier. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dimanche que rien n'indiquait une implication étrangère. Il a déclaré que les autorités étaient sur le coup, mais a souligné que les ressources étaient limitées.
Je tiens à assurer le public américain que nous sommes sur le coup. Nous travaillons en étroite coordination avec les autorités locales et les États, et il est essentiel, comme nous le disons tous depuis un certain nombre d'années, que le Congrès nous accorde des pouvoirs supplémentaires pour faire face à la situation des drones. Nos pouvoirs sont actuellement limités et ils sont sur le point d'expirer. Nous avons besoin qu'ils soient étendus.
Les habitants disent que le ciel, habituellement calme, s'est illuminé ces dernières semaines alors que les autorités cherchent des réponses. Christopher Stadoulis est un pilote de drone amateur à Clinton Township, New Jersey.
Ils n'ont pas la taille d'un avion de ligne, mais ils ont la taille d'un véhicule. Parce qu'ils sont plus bas, ils deviendront beaucoup plus gros. Et je peux le voir. Je peux dire qu'il ne s'agit pas d'un amateur. Et il y en a tellement dans le New Jersey, dans tout l'État. Tout le monde a vu cela depuis 3 ou 4 semaines maintenant. Imaginez combien d'argent cela doit coûter.
Les élus exigent que des mesures soient prises. Le sénateur Chuck Schumer est le chef de la majorité au Sénat.
Pourquoi avons-nous plus de questions que de réponses? Nous sommes ici aujourd'hui pour trois raisons. D'abord, pour faire en sorte qu'une technologie nouvelle, mais non classifiée, soit largement utilisée, le Robin, afin d'obtenir des réponses sur ces drones, et aussi pour annoncer que je vais aider à faire passer et je vais co-parrainer une législation qui permettra de mieux combattre ces drones en permettant aux services de police locaux et aux services de police des États d'aider les autorités fédérales à repérer ces drones comme tant de gens l'ont demandé.
Le président élu Donald Trump a proposé sa propre théorie lundi. Il n'a pas voulu dire s'il avait reçu un briefing classifié sur la question.
Le gouvernement sait ce qui se passe. Ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Et pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas faire de commentaires. Et je pense qu'il ferait mieux de dire ce qu'il en est. Nos militaires le savent et notre président le sait. Et pour une raison quelconque, ils veulent garder les gens dans l'expectative. Je ne peux pas imaginer qu'il s'agisse de l'ennemi, car s'il s'agissait de l'ennemi, il le ferait exploser. Même s'ils étaient en retard, il le ferait exploser. Il se passe quelque chose d'étrange.
Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord, ils veulent des réponses.
Voilà qui conclut notre journal. À la présentation, Nani Salani. Bon début de journée et prenez soin de vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui qui vous apporte les dernières nouvelles à travers le monde. Je suis Nani Talani, voici les titres de ce matin. Génocide des Tutsis, confirmation en appel de la réclusion à perpétuité pour Philippe Magnier. Un nouveau médicament contre le VIH offre de l'espoir à des millions de personnes. La maladie mystérieuse en RDC identifiée comme un paludisme sévère. Nous y reviendrons dans nos dossiers du jour avec une interview exclusive du docteur Aaron Haruna à Kinshasa.
Le premier chiffre qu'on avait avancé, c'était 140 décès. Et que d'après les statistiques, la tranche d'âge plus touchée, c'était les enfants de moins de 12 ans.
Également, des drones mystérieux survolent l'est des États-Unis. Les autorités cherchent des réponses. Les Mexicains sont encouragés à déposer leurs armes dans des églises. Sport, Vinicius Junior, sacré meilleur joueur FIFA de l'année. Sans oublier l'actualité économique, voici le journal. La Cour d'assises de Paris a confirmé en appel la peine de réclusion à perpétuité pour Philippe Magnier, un ancien gendarme rwandais impliqué dans le génocide des Tutsis en 1994. Magnier, naturalisé français, avait été accusé de génocide et de crimes contre l'humanité pour son rôle dans des massacres dans la préfecture de Boutaré. Il a supervisé des barrages routiers pour exterminer des civils tutsis et participer à plusieurs massacres, tuant des centaines de personnes. Malgré ces dénégations, la Cour a souligné son rôle déterminant dans l'ampleur des crimes. La défense a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. En RDC, le ministère de la Santé a annoncé hier qu'une maladie jusque-là non identifiée est une forme grave de paludisme. La maladie a déjà fait 143 morts dans la province de Kwango, dans le sud-ouest du pays. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Le mystère a enfin été résolu. Il s'agit d'un cas de paludisme grave sous la forme d'une maladie respiratoire, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué, ajoutant que la malnutrition dans la région avait affaibli la population locale, les rendant plus vulnérables aux maladies. Le communiqué a également précisé que 592 cas avaient été signalés depuis le mois d'octobre avec un taux de mortalité de 6,2%. Les symptômes de la maladie sont fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal et douleurs corporelles. Le ministre provincial de la Santé, Apollinaire Yumba, a fait savoir que des médicaments antipaludiques fournis par l'Organisation mondiale de la Santé étaient en cours de distribution dans l'hôpital principal et les centres de santé de la zone de santé de Panzi, épicentre de la maladie. Un porte-parole de l'OMS a indiqué que davantage de kits de santé pour les cas modérés et critiques devraient arriver ce mercredi.
plusieurs organismes de lutte contre le sida ont uni leurs forces pour fournir à 2 millions de personnes du lenacapavir. Il s'agit d'un nouveau médicament qui promet une efficacité sans précédent dans la prévention contre le sida. Mouhamadou Oumfa nous en dit plus.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le PEPFAR, plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ont uni leurs forces à celles de la Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance et de la Fondation Bill et Melinda Gates pour faciliter l'accès au lenacapavir. Ce médicament injectable, fabriqué par le laboratoire américain Gilead, change la donne de par son efficacité, mais aussi parce que contrairement aux prophylaxies existantes qui supposent une prise quotidienne, il permet de ne prendre que 2 doses semestrielles tous les ans. Mais le prix de 40 000 dollars pour un traitement a été un obstacle avant que Gilead ne cède sous la très forte pression des organismes spécialisés dans la lutte contre le sida. S'il est déployé à grande échelle parallèlement à d'autres outils de prévention du VIH, le lenacapavir a le potentiel d'accélérer la fin de l'épidémie du sida. C'est un objectif que s'est fixé la communauté internationale d'ici 2030, souligne le Fonds mondial dans un communiqué. Gilead a annoncé en octobre avoir signé des accords de licence volontaire sans redevance avec 6 fabricants de médicaments génériques. Cela doit permettre de fournir des versions à bas prix du lenacapavir pour la prévention du VIH dans 120 pays à faible revenu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont affirmé hier mardi ne pas être impliqués dans l'attaque qui a tué un haut responsable militaire russe à Moscou, une opération revendiquée par l'Ukraine. Néanmoins, Washington dénonce l'implication de ces généraux dans des atrocités. Le point avec Eric Manirakiza.
Je peux vous dire que les États-Unis n'en ont pas été informés à l'avance et n'étaient pas impliqués, a déclaré le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Le général Kirillov était celui qui parlait lors de ses briefings des laboratoires d'armes biologiques américains en Ukraine, dont Moscou accuse Washington, rappelle le journal Commerçant sur son site. C'était un général qui était impliqué dans un certain nombre d'atrocités. Il était impliqué dans l'utilisation d'armes chimiques contre l'armée ukrainienne, a assuré le porte-parole du département d'État. Les services de sécurité ukrainiens, SPU, avaient déjà accusé lundi le général de crimes de guerre dans un communiqué et d'être responsable d'usage massif des armes chimiques contre les forces ukrainiennes. Les autorités russes ont rejeté ces accusations à plusieurs reprises, les qualifiant d'absurdes. Le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, et son assistant ont été tués dans l'explosion d'un engin dans le sud-est de Moscou, avait annoncé le comité d'enquête russe qui avait ouvert une enquête pour assassinat, attentat et trafic d'armes. Nous n'allons pas pleurer la mort d'un individu qui a participé à une invasion illégale et imposé la souffrance et la mort au peuple ukrainien, a déclaré de son côté un porte-parole du gouvernement britannique.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclaré hier que les discussions menées au Qatar en vue d'un accord de trêve et de libération des otages à Gaza étaient sérieuses et positives. Selon une source proche des pourparlers, une délégation israélienne est arrivée lundi à Doha pour rencontrer des médiateurs, information que les autorités israéliennes n'ont pas confirmée. Les précisions de John Lindon.
Dans un communiqué, le Hamas affirme qu'à la lumière des discussions sérieuses et positives tenues mardi à Doha sous les auspices du Qatar et de l'Égypte, il est possible de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers si l'occupation cesse d'imposer de nouvelles conditions. Ces discussions font suite à une visite à Doha le 11 décembre du chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, David Barnea, a indiqué lundi une source proche des négociations, mais rien n'indique qu'il participe au pourparlers en cours. Les négociateurs israéliens n'ont jamais été aussi proches d'un accord en vue de la libération d'otages dans les territoires palestiniens depuis la trêve de novembre 2023, a déclaré lundi le ministre de la Défense israélien, Israël Katz. En novembre 2023, une trêve d'une semaine, la seule intervenue jusqu'ici, avait permis la libération de 105 otages et celle de 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Tous les efforts de médiation menés par l'Égypte, les États-Unis et le Qatar depuis lors pour tenter d'obtenir une nouvelle trêve ont échoué.
Les élus américains au Congrès ont trouvé hier un accord budgétaire pour financer l'État fédéral jusqu'à mi-mars, évitant ainsi un shutdown, une paralysie des services publics juste avant les fêtes de fin d'année. Le texte doit être adopté par la Chambre des représentants avant d'être voté au Sénat, puis promulgué par le président Biden. Si aucun accord n'est trouvé d'ici vendredi soir, des centaines de milliers de fonctionnaires seraient mis en chômage technique et des services sociaux suspendus. Luigi Mangione, le tueur présumé du directeur général de United Healthcare, Brian Thompson, a été inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes d'actes de terrorisme à New York. L'assassinat, survenu le 4 décembre, visait à provoquer la terreur selon le procureur de Manhattan. Luigi Mangione, 26 ans, ancien étudiant brillant, a été capturé dans une ville de Pennsylvanie 5 jours après le meurtre. Il encourt la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête a révélé un texte manuscrit ciblant le secteur de l'assurance santé que Luigi Mangione détestait. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voici à présent les points essentiels à retenir des dernières tendances économiques sur le continent africain et ailleurs avec Georges Léonard Sagnot.
Le Kenya a prolongé un accord de fourniture de pétrole avec 3 entreprises du Golfe, ce qui a permis d'alléger la pression sur sa monnaie, le shilling. Cet accord est assorti de conditions de crédit de 180 jours, ce qui permet au pays d'accumuler des dollars pour l'achat en temps utile, plutôt que d'avoir besoin d'environ 500 millions de dollars chaque mois pour payer les importations. La Zambie sera à nouveau éligible à des financements étrangers dans les mois à venir. Les négociations sur la restructuration de sa dette entrant dans leur phase finale. La Zambie a fait défaut sur sa dette en 2020 dans un contexte de pandémie de COVID-19. Lusaka a conclu en juin 2023 un accord de principe avec ses créanciers publics étrangers sur la restructuration de 6 milliards de dollars de dettes extérieures. La Banque centrale américaine Fed a entamé mardi sa réunion au cours de laquelle ses responsables devraient abaisser de nouveau les taux malgré une reprise de l'inflation ces 2 derniers mois et une activité économique toujours dynamique. La Fed publiera sa décision ce mercredi. La Réserve fédérale a commencé en septembre à abaisser ses taux qu'elle maintenait depuis juillet 2023 à leur plus haut niveau en plus de 20 ans afin de faire baisser l'inflation.
Maintenant Yacouba Ouédraogo pour notre segment sportif qui revient notamment sur la cérémonie FIFA The Best à Doha au Qatar. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Vinicius Junior, sacré meilleur joueur FIFA de l'année.
Oui, le Brésilien du Real Madrid a été désigné meilleur joueur FIFA de 2024 lors de la cérémonie The Best organisée à Doha au Qatar. Vinicius Junior venge donc l'affront ressenti par le Real Madrid qui avait annulé sa venue à la cérémonie du Ballon d'Or fin octobre à Paris pour protester contre la victoire du milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri. Le club merengue a aussi vu son entraîneur Carlo Ancelotti emporter le trophée du meilleur entraîneur de l'année. L'Italien avait déjà été désigné au Ballon d'Or. Chez les dames, la Barcelonaise Aitana Bonmati a été désignée meilleure joueuse FIFA pour la 2e année consécutive, comme au Ballon d'Or. Emma Hayes, sur le banc de Chelsea, a remporté le trophée de meilleur entraîneur 2024, aux côtés du prix Puskas de plus beau but de l'année, décerné au mancunien Alejandro Garnacho. La FIFA a créé cette année un prix Marta dédié au plus beau but féminin de l'année, attribué à Marta, la joueuse brésilienne à l'immense carrière.
Justement, parlons de la Coupe intercontinentale. Le Real Madrid brigue un second titre cette saison.
Le Real Madrid aborde la finale de la Coupe intercontinentale aujourd'hui à Doha contre le club mexicain du Pachuca, qui a sorti à la Ligue d'Égypte de la compétition avec Kylian Mbappé incertain pour cause de blessure. Le club madrilène part tout de même favori avec ses autres stars Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. Cette compétition annuelle prolonge l'ancien mondial des clubs qui sera désormais organisé tous les 4 ans et dont la première édition nouvelle formule aura lieu l'été prochain aux États-Unis. Le club vainqueur de la Ligue des Champions sera désormais dispensé de demi-finale et n'aura qu'un match à disputer, la finale, pour remporter ce trophée.
Pour terminer, Yacouba, Ronaldo vise la présidence de la Fédération brésilienne de football.
L'ancien attaquant brésilien a annoncé son intention d'être candidat à la présidence de la Confédération brésilienne de football, promettant le changement pour résorber une crise profonde chez les quintuples champions du monde. J'ai des centaines de motivations, mais je crois que la plus grande d'entre elles est de faire en sorte que le football brésilien soit à nouveau respecté au niveau international, a déclaré Ronaldo dans un entretien sur le site Globo Esporte. Pour déposer sa candidature, le double champion du monde 1994 et 2002 et double ballon d'or 97 et 2002 doit bénéficier du soutien des clubs et des fédérations régionales. Et pour ce faire, il a promis de voyager dans tout le Brésil pour partager ses plans pour un football brésilien qui court après son 6e titre mondial depuis plus de 22 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, de nouveau avec vous. Bienvenue dans nos dossiers du jour qui vous propose une interview exclusive du docteur Aaron Haruna Akinshasa sur une mystérieuse maladie en RDC. La lutte des journalistes de Goma contre la désinformation et la situation alarmante des enfants exploités dans les mines de lithium au Nigeria. Nous nous intéressons également aux mystérieux drones qui survolent l'est des États-Unis. Une maladie non décelée jusque-là fait des ravages à Ponzi, une région de la province du Kwango, dans l'ouest de la RDC. Au moins 140 décès ont été enregistrés la semaine dernière dans cette zone située à 700 km à l'est de Kinshasa. Hier mardi, le ministère de la Santé a annoncé qu'il s'agit en fait d'une forme grave de paludisme. Eddie Isango a joint à Kinshasa le directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé, le docteur Aaron Haruna.
On a dépêché une équipe et qu'il y a un petit souci de communication entre Panzi avec Kinshasa. Comme je le disais, c'est un coin un peu isolé. Il y a le problème de communication. Mais le premier chiffre qu'on avait avancé, c'était 140 décès. Et que d'après les statistiques, le tranche d'âge le plus touché, c'était les enfants de moins de 12 ans. Et qui présentait des anémies, des signes typiques au paludisme. C'est un coin où il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de malnutrition, de prise en charge des cas. Du fait qu'il n'y a pas une structure qui peut fournir du sang de bonne qualité. Voilà.
On parle d'une maladie mystérieuse. Est-ce que les échantillons ont été prélevés, des examens ont été faits? Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait?
En fait, d'après l'OMS, parce que c'est l'OMS qui était sur terre avec ses amis, on a constaté que beaucoup de cas, 10 échantillons sur 12, c'était des cas de paludisme. Mais je pense qu'il y a une équipe qui continue à faire l'investigation, comme je vous disais. Et pour nous, d'abord, ça doit être paludisme et associé à d'autres facteurs, malnutrition, et puis des tas d'autres, comme ce sont les enfants de moins de 10 ans, il y a des problèmes de diarrhée, ainsi de suite. Mais pour nous, je pense que le problème crucial, c'est d'abord le paludisme, qui est une forme épidémique, qui se met dans un terreau où il y a la malnutrition, dans un terreau où il y a carence des médicaments pour la prise en charge.
À part la malaria qui est de possibilités, est-ce qu'on peut penser que c'est une autre maladie contagieuse qui se transmet de l'homme à l'homme parce que les signes qu'on présentait ressemblaient à cela?
Oui, je pense que c'est pourquoi il faut encore dépêcher des spécialistes. Il faut qu'il y ait des virologues, il faut qu'il y ait des parasitologues pour prélever aussi des échantillons à un niveau supérieur. Mais comme déjà on a présenté le problème de l'anémie, et il peut y avoir d'autres problèmes, l'association des temps à autre, parce que chaque année il y a des épidémies aussi de fièvre typhoïde et que la fièvre typhoïde est touche beaucoup les enfants de moins de 5 ans. Fièvre typhoïde et paludisme, c'est presque le même tableau similaire. Mais maintenant, c'est question de poser aux gens qui sont sur terrestre. En plus de cela, il n'y a pas de cas de perforation typhique, c'est-à-dire les cas de péritonite ou bien d'autres formes hémorragiques pour essayer de dire association petite paludisme.
C'est un coin reculé, difficile d'accès, mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Parce que ça fait déjà quelques mois qu'on a constaté cela.
Oui, je pense que la province s'est mobilisée. Il y a déjà qu'on a envoyé sur terrain avec un peu de médicaments. Parce qu'une maladie ne peut pas résister une semaine, deux semaines, une maladie mystérieuse. Donc, il faut envoyer les équipes des laboratoires, il faut envoyer les vrais épidémiologistes pour faire l'investigation approfondie, pour nous dire effectivement il s'agit de quoi. Bon, bien que l'OMS est le premier chantier qu'on a prélevé, on a dit que c'est le paludisme. Dans ce milieu où il y a une prévalence de malnutrition très élevée.
Il a toujours été rapporté que la RDC a une chaîne qui permet de diagnostiquer assez rapidement quand il s'agit d'épidémie. Cette fois-ci, ça n'a pas marché ou quoi?
Il y a des limites. Hein. Vous vous souvenez, la fois passée, à Banal, il y a pour confirmer les cas de méningite, on était obligé d'attendre un mois, envoyer l'échantillon à l'Institut Pasteur de France. Donc, nous avons quelques échantillons, comme ces derniers temps, nous avons connu une épidémie de fièvre hémorragique. Là, nous sommes bien avancés.
Docteur Aaron Haruna, directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Le Nigeria est confronté à une montée de l'exploitation minière illégale du lithium. Des propriétaires de mines exploitent des enfants issus de familles pauvres à la recherche d'emploi. Ces enfants sont conscients des dangers, mais n'ont d'autre choix que de risquer leur vie pour subvenir à leurs besoins. Dine Niwa pour les détails.
L'exploitation du lithium à Passali dans l'état de Nassarawa au Nigeria depuis une dizaine d'années a transformé une paisible communauté isolée en un site d'activité frénétique de mine artisanale illégale. Les méthodes d'extraction sont aussi primitives que dangereuses. Abdoulaye Sadiou est un mineur de lithium.
Je suis parfaitement conscient que ce que je fais est illégal, mais je le fais pour subvenir à mes besoins et nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement nous aide. Nous ne savons pas quand le gouvernement viendra nous aider et ce, s'il finit par venir. Nous savons aussi que le gouvernement peut venir nous arrêter un jour, mais nous ne pouvons pas nous croiser les bras et attendre, car au lieu de rester les bras croisés ou au pire d'aller voler, il vaut mieux que nous nous lancions dans l'exploitation minière.
La demande croissante de lithium qui alimente les stocks des entreprises chinoises pour son utilisation dans les batteries pour les véhicules électriques et le stockage de l'énergie a créé l'exploitation des plus pauvres et des plus vulnérables, notamment les enfants. Aliou Ibrahim est marchand de lithium.
Je ne peux pas arrêter les enfants parce que dans tout l'état de Nassarawa, si vous allez sur tous les sites d'extraction de lithium, tout le travail effectué sur les sites d'extraction est illégal. Il ne s'agit pas du travail d'une entreprise. Si les entreprises viennent et réalisent qu'il y a du lithium sur le site, elles n'autoriseront pas les enfants à y travailler. Elles clôtureront toute la zone et veilleront à ce que personne n'y entre, en particulier les enfants qui sont des mendiants et qui, s'ils ne travaillent pas, n'ont pas les moyens de nourrir et de prendre soin de leur famille.
Les mineurs manient des haches pour tailler dans les rochers, descendant plusieurs mètres dans des puits sombres. Une équipe de 6 enfants peut trier et en sacher jusqu'à 10 sacs de 25 kilos par jour. Aliou Ibrahim, marchand de lithium.
Nous ne pouvons pas empêcher les enfants d'essayer de gagner leur salaire journalier parce que nous sommes majoritairement pauvres, que nous n'avons rien et que nous devons travailler pour pouvoir manger.
Une fois triés, les minéraux sont mis en sac et commencent leur voyage depuis Passali jusqu'à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Aujourd'hui, des dizaines de mines sont dans la région, toutes sans licence et probablement inconnues des autorités.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Dans la ville de Goma, en RDC, un groupe de journalistes congolais lutte contre un flot de fausses informations qui peuvent avoir des conséquences tragiques. Le reportage de Zanem Netizaidi, relaté par Jean-Roger Bion.
Ces journalistes travaillant à Goma luttent contre un flot de fausses informations sur la guerre et les maladies. Dans une région en proie à des conflits et à des problèmes de santé, les vérificateurs de faits de la publication ELISA Fact luttent contre la désinformation, le mythe selon lequel le Mpox n'existe pas et n'est qu'une simple gale. Selon Aline Catalico, leur travail est essentiel à la santé publique et à l'instauration de la confiance.
Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent sur la Mpox, quelqu'un croit par exemple que le vaccin contre la Mpox serait là juste pour exterminer le peuple congolais. Et donc, on voit déjà les dangers de ces rumeurs, donc les dangers qui peuvent nuire à la communauté et les dangers qui peuvent laisser à ce que la maladie en ait la question ne soit pas éradiquée.
Depuis 2021, les 25 journalistes d'ELISA Fact, dont Joël Alimassi Kitambala, sensibilise au danger de la désinformation.
Nous mettons des mots-clés à chaque fois qu'il y a une publication qui parle des, qui mentionne ces mots-clés-là. Nous avons des notifications sur toutes les publications concernant ces mots-clés. Et nous partageons ces publications avec la rédaction, donc l'équipe des éditeurs. L'équipe des éditeurs a jugé si la publication, du moins l'information, mérite d'être vérifiée.
Les articles d'ELISA Fact sont publiés sur son site internet, partagé sur les réseaux sociaux et diffusé via les stations de radio locales pour atteindre les personnes n'ayant pas accès à Internet. Une grande partie de la désinformation concerne des conspirations médicales similaires à celles concernant le Mpox. La journaliste Jolene Kazimoto a fait état de désinformation sur le COVID-19 dans ce podcast.
À Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience quasi généralisée d'une catégorie de la population à s'inscrire dans la lutte contre le Covid-19. Car beaucoup sont ceux qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Les plus dubitatifs s'y trouvent dans le périphérique.
D'après le rédacteur en chef Daniel Makeke, ses efforts sont importants pour lutter contre la désinformation.
Nous sommes en collaboration avec certaines radios communautaires parce que nous faisons aussi une production de podcasts. La radio fait le relais de ces podcasts qui sensibilisent cette population-là sur la maladie, l'épidémie et comment par exemple se faire traiter et quelle est la vérité derrière le traitement par exemple du Mpox ou l'origine du Mpox.
Makeke affirme que les efforts du projet ELISA Fact contribuent à prévenir la propagation de fausses nouvelles qui peuvent avoir des conséquences néfastes.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Que se passe-t-il dans le ciel de l'Est des États-Unis? Ces dernières semaines, d'innombrables drones ont été repérés et tout le monde, des habitants des régions où ces appareils sont aperçus au président élu, se posent des questions. Reportage d'Anita Powell avec le récit de Michel Joseph.
Airlines don't just hang out. Those aren't helicopters.
Pourquoi un grand nombre de drones sont-ils soudainement apparus dans le ciel du New Jersey? Qui les a envoyés et pourquoi? Ces questions se posent à travers toute l'Amérique et dans le monde entier. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dimanche que rien n'indiquait une implication étrangère. Il a déclaré que les autorités étaient sur le coup, mais a souligné que les ressources étaient limitées.
Je tiens à assurer le public américain que nous sommes sur le coup. Nous travaillons en étroite coordination avec les autorités locales et les États, et il est essentiel, comme nous le disons tous depuis un certain nombre d'années, que le Congrès nous accorde des pouvoirs supplémentaires pour faire face à la situation des drones. Nos pouvoirs sont actuellement limités et ils sont sur le point d'expirer. Nous avons besoin qu'ils soient étendus.
Les habitants disent que le ciel, habituellement calme, s'est illuminé ces dernières semaines alors que les autorités cherchent des réponses. Christopher Stadoulis est un pilote de drone amateur à Clinton Township, New Jersey.
Ils n'ont pas la taille d'un avion de ligne, mais ils ont la taille d'un véhicule. Parce qu'ils sont plus bas, ils deviendront beaucoup plus gros. Et je peux le voir. Je peux dire qu'il ne s'agit pas d'un amateur. Et il y en a tellement dans le New Jersey, dans tout l'État. Tout le monde a vu cela depuis 3 ou 4 semaines maintenant. Imaginez combien d'argent cela doit coûter.
Les élus exigent que des mesures soient prises. Le sénateur Chuck Schumer est le chef de la majorité au Sénat.
Pourquoi avons-nous plus de questions que de réponses? Nous sommes ici aujourd'hui pour 3 raisons. D'abord, pour faire en sorte qu'une technologie nouvelle, mais non classifiée, soit largement utilisée, le Robin, afin d'obtenir des réponses sur ces drones, et aussi pour annoncer que je vais aider à faire passer et je vais co-parrainer une législation qui permettra de mieux combattre ces drones en permettant aux services de police locaux et aux services de police des États d'aider les autorités fédéral à repérer ces drones comme tant de gens l'ont demandé.
Le président élu Donald Trump a proposé sa propre théorie lundi. Il n'a pas voulu dire s'il avait reçu un briefing classifié sur la question.
Le gouvernement sait ce qui se passe. Ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Et pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas faire de commentaires. Et je pense qu'il ferait mieux de dire ce qu'il en est. Nos militaires le savent et notre président le sait. Et pour une raison quelconque, ils veulent garder les gens dans l'expectative. Je ne peux pas imaginer qu'il s'agisse de l'ennemi, car s'il s'agissait de l'ennemi, il le ferait exploser. Même s'ils étaient en retard, il le ferait exploser. Il se passe quelque chose d'étrange.
Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord, ils veulent des réponses.
Voilà qui conclut notre journal. À la présentation, Nani Talani. Bon début.